RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45. Info Soir, c'est avec vous, Léo Fichou.
Troisième et dernier jour sur le territoire pour la mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Les élus vont quitter la Nouvelle-Calédonie après une série de rencontres et d'entretiens. Deux conseils municipaux ce soir, celui de Dumbéa qui examine la décision modificative numéro 2 de son budget 2024 et puis celui de Païta où le projet de plan d'urbanisme directeur doit être examiné. Les sages-femmes du territoire lancent un cri d'alerte, des cabinets brûlés, de nombreux départs. Elles déplorent le manque de considération des institutions publiques à l'égard de leur situation. Un centre de recherche et d'excellence pourrait voir le jour à Nouville. Le gouvernement lance aujourd'hui un concours d'idées pour la construction de la future cité de la connaissance. Et puis top départ aujourd'hui du tournoi multisport mis en place par l'UNSS-NC. Près de 250 collégiens et lycéens réunis au stade Pentecôte de Nouméa. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Et on démarre avec cette mission d'information du Forum des îles du Pacifique qui se termine ce soir. Les premiers ministres des Tonga, des Cook et des Fidji, mais aussi le ministre des Affaires étrangères des îles Salomon, vont quitter le territoire après avoir multiplié les rencontres et les entretiens. Elisabeth Noir.
Une mission au cours de laquelle ils ont pu entendre différents acteurs calédoniens afin d'essayer de comprendre la situation générée par les émeutes. Ils se sont entretenus tour à tour avec les responsables des principales institutions, y compris les maires qu'ils ont rencontrés ce matin, notamment ceux de l'agglomération. Mais ils ont aussi pris le temps de s'entretenir avec les acteurs économiques, avec les autorités religieuses, les représentants du monde médical ou encore le monde enseignant. Ils ont aussi eu des entretiens politiques, notamment avec les loyalistes qui ont évoqué avec eux les causes qui ont mené à la situation actuelle. Les loyalistes qui précisent dans un communiqué qu'ils ont souligné le rôle central et mortifère qu'a joué la CCAT. Les membres du forum ont aussi visité certains lieux détruits par les émeutes de mai dernier. Ils se sont notamment rendus cet après-midi au lycée Petro Atiti après avoir visité Ducos ou la zone de Kenouin. Et puis ils se sont également entretenus avec le haut-commissaire Louis Lefranc et avec l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Le but de cette visite, c'était aussi de soutenir les efforts en cours de l'État et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour appeler à la paix et à la stabilité, à la désescalade des violences en cours et à la promotion du dialogue entre les parties. Les membres de cette mission vont maintenant rentrer chez eux. Ils doivent produire un rapport qui sera transmis d'ici plusieurs mois aux pays membres du Forum des îles du Pacifique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier qui concernait le Forum des îles du Pacifique. 75% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent craindre un risque d'ingérence de la part de la mission du Forum des îles du Pacifique. Ils sont 25% à penser qu'elle vient s'informer objectivement de la situation de la Nouvelle-Calédonie. Notre question du jour, alors que la métropole vient de passer à l'heure d'hiver, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie doit-elle aussi se poser la question du changement d'heure. Si vous pensez que la Calédonie doit se poser cette question d'un changement d'heure, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Le conseil municipal de Dumbéa prend en compte à son tour les conséquences des violences insurrectionnelles. Il est réuni depuis 17h30 pour examiner notamment la décision modificative numéro 2 de son budget 2024 qui est marquée par une réduction drastique, Elisabeth.
600 millions en moins dans le budget de la commune, c'est une conséquence directe des exactions commises depuis le 13 mai. La municipalité doit une nouvelle fois ajuster son budget pour prendre en compte une baisse des recettes et une réduction des dépenses d'investissement. Dans un tout autre domaine, les conseillers se pencheront ce soir sur la création du premier point justice accueilli dans une commune calédonienne. Il s'agit d'un lieu d'accueil gratuit qui permet d'apporter des informations de proximité dans le domaine juridique. La ville de Dumbéa doit par ailleurs essayer de relancer la participation citoyenne sur l'ensemble de la commune pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. La mairie va donc lancer un appel à candidature aux Dumbéens qui souhaitent devenir référents de leur quartier.
Et en matière de sécurité, le maire va être interpellé par le groupe Dumbéa Intègre qui veut attirer son attention sur la prolifération des squats dans la commune.
Le groupe Dumbéa Intègre du conseil municipal de Dumbéa s'inquiète en effet de la prolifération des habitats spontanés. De nouvelles installations illicites ont été récemment signalées sur deux terrains privés en face de l'ancien centre commercial Kenouin. Pour le groupe d'opposition, il est essentiel que ces terrains, laissés vacants depuis plusieurs années, soient rapidement défrichés pour éviter la formation d'une nouvelle zone de squat sur la commune. Les explications de Xavier Rossard, le chef du groupe d'Abéa Intègre.
On voit depuis quelques années pulluler des habitations sur cette zone. Et nous, ce qu'on craint, c'est que cette zone vienne complètement fermer et ceinturer toute la partie sud de notre commune. Et donc, nous interpellons aujourd'hui le maire, qui en a la compétence, de demander aux propriétaires, qui sont des propriétaires de ces terrains privés, de défricher ces zones afin d'endiguer et d'empêcher l'installation de nouvelles zones de squat, puisque tout le littoral de Dimbéa, Caillou Bleu, Squat, du Péage et du Midipôle sont aujourd'hui infestés de zones d'habitat insalubres, et on peut considérer que cette zone peut générer des problèmes d'incendie et d'insalubrité sur la commune. Donc nous, on exhorte le maire à prendre des dispositions pour demander à ses propriétaires de défricher ces terrains et d'endiguer ces nouvelles constructions.
Ces zones d'habitat précaires génèrent des conditions de vie insalubres. Elles comportent des risques d'incendie, mais elles sont aussi un vrai risque pour la sécurité des Dimbéens, relève Xavier Rossard.
Oui, effectivement, on l'a bien vu depuis les émeutes du 13 mai. Ces zones de squat ont permis aux émeutiers de se réfugier et d'organiser toutes les exactions et tous les incendies. Tous les problèmes d'insécurité dans cette période sont partis de ces squats de Dimbéa, et on sait très bien que ce sont devenus des zones de non-droit.
Xavier Rossard qui parle du risque de voir se former une véritable ceinture d'instabilité au sud de Dimbéa. Il doit interpeller le maire sur cette question lors du conseil municipal qui se déroule actuellement.
Autre conseil municipal ce soir, c'est celui de Païta, un conseil dédié au PUD de la ville. Une délibération arrêtant et rendant public le projet de plan d'urbanisme directeur est inscrite à l'ordre du jour. Et on reste du côté de Païta. La commune possède désormais son centre commercial et son hypermarché en projet depuis une dizaine d'années. L'ouverture de ce centre commercial près de l'Arène du Sud ne pouvait pas mieux tomber. Depuis les émeutes, seuls restaient quelques commerces de proximité, trop juste pour les familles ou les habitants avec des besoins spécifiques. Avant même l'ouverture à 8h ce matin, c'était l'effervescence et les quelques 500 places de parking étaient déjà prises d'assaut. Pour Ronan Délé, présidente du syndicat des commerçants, c'est une ouverture qui va faire du bien aux habitants, mais aussi aux commerçants.
Que ce soit des gens qui descendent du nord, de Pontouta, ou alors qui habiteraient dans les zones de Naya, de Tiaré, etc. Il y a énormément de gens dans cette zone. Et il était vraiment important, je pense, qu'un centre de ce type ouvre pour pouvoir désengorger également les commerces, même de Dimbéa, voire de Nouméa, qui, depuis les émeutes, en fait, il y a eu un rebattage des cartes un petit peu suite aux destructions avec un afflux de clientèle dans d'autres centres commerciaux. Ça va permettre de mieux étaler, justement, l'afflux de clientèle. Et c'est une très bonne chose pour la Calédonie. Ça redonne vraiment de l'espoir de voir l'activité économique repartir de la sorte.
Ce nouvel espace est composé d'un hyper-U où 110 personnes sont employées. Près de 50% viennent d'ailleurs de Païta et des alentours. 27 commerces, un food court et des magasins éphémères viennent compléter ce centre commercial de plusieurs milliers de mètres carrés. Ce matin, les curieux venaient de Païta, mais pas uniquement. Ils se disent soulagés de cette ouverture.
Je vis sur Nouméa, mais mes parents habitent Karikaté, donc je connais très bien Païta. C'est super, oui, pour les habitants de Païta, surtout avec ce qui s'est passé lors des événements. Et c'est vrai que c'est assez grandiose, j'ai envie de dire, surtout sur Païta. Avoir une galerie commerciale avec autant de magasins, autant de choix, c'est génial.
Ça fait du bien d'avoir un hypermarché, hein. C'est pas un supermarché.
Pourquoi être venu de Nouméa ici ?
Ben, c'est déjà voir la différence qu'il y a par rapport au prix. Ben, c'est bien pour la population de Païta, hein. Et puis même pour Nouméa aussi, hein. Faut pas croire, c'est tout le monde qui est touché par rapport à ce qui s'est passé.
Plusieurs commerces qui étaient présents dans la zone de Kenouin et qui ont subi les exactions ont pu être relocalisés dans ce nouveau centre commercial. Camille est la responsable du magasin Billabong à Païta.
C'est vrai qu'on a dû rebondir. Après, l'ouverture de Païta était déjà programmée. Mais c'est vrai que là, on a pu du coup replacer nos équipes dans les magasins du groupe. Ceux qui étaient basés à Kenouin étaient quand même dans les environs à Dimbéa, Païta. Donc nous, on a recruté vraiment localement. Ceux qui sont au Billabong de Lansvata sont plus sur Nouméa. Et puis nous, du coup, on nous a récupérés ici à Païta, au centre commercial. On a beaucoup de passages. C'est vrai que c'était très attendu. L'ouverture, on l'attendait depuis un moment. On a réussi vraiment à tout finir de justesse et puis c'est avec grand plaisir qu'on accueille nos clients aujourd'hui.
Et cette ouverture de l'hyper-U de Païta est une très bonne nouvelle pour la commune, nous a dit son maire Marilyn D'Arcangelo.
D'une manière générale, je suis ravie de voir l'ouverture de l'hypermarché se concrétiser enfin, parce que cela représente une nouvelle dynamique économique et des perspectives positives pour la commune. En fait, c'est un véritable bol d'oxygène pour ses habitants. Et j'espère que ça apportera une voie d'ouverture à une nouvelle centralité qui était très chère au cœur du maire que j'ai remplacé et verra arriver d'autres services et d'autres ouvertures de commerce, etc. C'est vrai que Depuis les exactions, il n'y a plus rien sur la commune. Il y a quelques petits commerces de proximité, mais sinon les gens doivent aller au minimum jusqu'à Dimbéa pour pouvoir faire leurs courses. Donc effectivement, c'était très attendu et nous sommes vraiment ravis de ce magnifique centre commercial qui s'ouvre. Et ça apporte aussi une belle modernité dans Païta.
Ce nouvel Hyper-U est le quatrième hypermarché à voir le jour sur le territoire si l'on prend en compte encore l'ancien carrefour des Quénuines. 17h56 sur Radio Rythme Blanc, on marque une première page de publicité. On reviendra juste après sur la situation critique des sages-femmes sur le territoire.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal est au fichu.
Et les sages-femmes du territoire qui lancent un cri d'alerte. Les violences subies depuis le 13 mai ont aggravé la crise que traversait déjà la profession. Avec plusieurs cabinets brûlés ou rendus inaccessibles, ainsi que de nombreux départs, elles déplorent le manque de considération des institutions publiques à l'égard de leur situation. À l'approche de la commission santé de la CAFAT qui se tient au mois de novembre, le syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie souhaite donc manifester son indignation. On écoute Julie Coupé-Nourry, sage-femme libérale sur Boulari et trésorière du syndicat.
Ben ça, c'est un peu malheureusement l'histoire de la profession de sage-femme depuis la nuit des temps. On est sans cesse le parent pauvre de la médecine. On est à Bac plus 6 aujourd'hui. On fait les mêmes temps d'études que des confrères dentistes. Je peux vous dire qu'on ne serait pas à 3 520 francs la consultation. Si on va dans le domaine hospitalier, nos confrères, leur grille indiciaire n'ont pas été renouvelée depuis 2017. Et alors aujourd'hui, si on veut essayer de fidéliser les gens sur le territoire pour qu'ils restent ou à défaut de réussir à en faire venir, va falloir rendre la profession un peu plus sexy. Parce que je peux vous garantir qu'avec tout ce qui s'est passé, entre les cabinets qui ont été brûlés ou inaccessibles, la sourde oreille de la CAFAT et du gouvernement à toutes nos demandes, on va avoir une nouvelle hémorragie de soignants, parce qu'il y en a quand même plus de la moitié de la population des sages-femmes de Calédonie qui songent sérieusement à partir avant la fin de l'année. On fait face à une catastrophe.
Et parmi les propositions du syndicat, augmenter le tarif des consultations à 3 970 francs, le même montant que reçoivent les sages-femmes en Polynésie. En Calédonie, ce prix est de 3 520 francs depuis 2017. C'est la dernière ligne droite pour l'année scolaire. Avec la crise insurrectionnelle, les élèves ont perdu entre 3 et 10 semaines de cours, Elisabeth.
Entre 3 et 10 semaines de cours en moins et des inquiétudes, bien sûr, sur le niveau des élèves et le cas échéant sur la valeur et la validité des diplômes. C'est pourquoi le vice-rectorat a dû s'adapter, notamment pour les classes à examen. C'était le thème ce midi de notre magazine citoyen, en compagnie notamment du vice-recteur Didier Vindatiche, qui a donné des assurances.
On n'était pas du tout certain de pouvoir organiser une session d'examen à la fin de l'année 2024. Donc imaginez-vous l'effet produit si on avait fait une année blanche sans donner aux élèves et à leurs familles la capacité de poursuivre leur scolarité une fois le baccalauréat, par exemple, en poche pour aller à l'université ou ailleurs. Donc il fallait absolument qu'on trouve une formule. Et donc la seule alternative pour nous, c'était de recourir au contrôle continu, de garantir aux élèves et à leurs familles de pouvoir obtenir un diplôme à la fin de l'année, en les interrogeant sur les seules parties du programme traitées pendant les temps de présence ou en distanciel dans les établissements.
Le vice-recteur qui était accompagné d'Isabelle Amiot, chef de l'inspection pédagogique au vice-rectorat, et de Julien Leray, chef de la division examen et concours au vice-rectorat. Un contrôle continu a donc été mis en place et le vice-rectorat a travaillé pour faciliter le travail des établissements scolaires. Les parents d'élèves, en tout cas, sont aujourd'hui rassurés. C'est ce que nous a dit Sylvain Ons, le président de la Fédération des parents d'élèves.
Il n'y a pas d'inquiétude particulière. L'important, c'est que le diplôme, il garde sa valeur. Les parents ont souvent peur que le diplôme soit dévalué. On l'a connu pendant la Covid-19. Le diplôme qui est sorti de là n'a posé aucun problème et a permis la continuation des études. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est de dire aux parents, il n'y a pas de dévaluation du diplôme. Il a la même valeur. Les bons élèves, que ce soit en contrôle continu ou pas, ceux-là auront le bac avec mention, il n'y a aucun souci, parce que ce sont des bons élèves. Simplement, comme chaque année, quand il y a des problèmes comme ça, l'administration regarde avec bienveillance, on va dire entre guillemets, les copies, pour éviter qu'il y ait trop de problèmes. On n'est pas inquiet, parce que le diplôme, il gardera sa valeur, et que tous les enfants pourront continuer leur cursus sans souci.
Et le fait qu'il n'y ait pas cette année d'examen sur table va permettre d'organiser des semaines de cours supplémentaires et donc de rattraper le retard. Viendra ensuite le temps d'organiser la rentrée scolaire 2025, un magazine citoyen que vous pouvez réécouter bien sûr en podcast sur notre site internet.
Les élections pour le renouvellement des élus de la Chambre des métiers sont en cours. Les adhérents ont pu voter par correspondance ou par voie électronique jusqu'au 25 octobre dernier. Pardon. Et le 5 novembre prochain, ceux qui n'ont pas encore voté pourront se rendre dans l'un des bureaux de vote situés à Nouméa, à Conné et à Pointe-d'Imier. Deux listes sont en lice, celle de la présidente sortante Elisabeth Rivière, baptisée « Agissons pour un avenir durable de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie ». Elisabeth Rivière qui sera notre invitée demain dans le journal de 11h30. L'autre liste, l'artisanat autrement, décidons ensemble, est mené par Cédric Brinon, qui sera lui notre invité demain matin à 7h30. Un accident de la route cette nuit à Poya. Un homme visiblement sous l'emprise de l'alcool a fait une sortie de route un peu après minuit. Il roulait bien au-dessus de la limitation de vitesse sur la route de Népouy dans le sens sud-nord. Après l'impact, il a vite été évacué vers le CHN de Conné. Il présenterait un traumatisme crânien. Nouvel arrêté du Haut Commissariat concernant le tronçon de route de Saint-Louis. L'autorisation d'y circuler est prolongée jusqu'au 4 novembre prochain. Pour rappel, les véhicules peuvent traverser de 6h à 10h le matin, puis de 14h à 18h l'après-midi. Et puis un avis aux usagers du réseau Taneo. Une ligne de bus supplémentaire circulera sur Nouméa dès le 1er novembre. Il s'agit de la N8 qui dessert la place de la Moselle et l'Ansvata. Uniquement en semaine, bien évidemment. Quant aux 11 autres lignes de bus, elles sont maintenues.
RRB 18h02.
Un centre de recherche et d'excellence pourrait voir le jour à Nouville. Le gouvernement lance aujourd'hui un concours d'idées pour la construction de la future cité de la connaissance, un lieu dans lequel pourraient se retrouver les chercheurs du territoire et du monde entier. Car malgré les violences qui ont marqué la Calédonie cette année, elle reste un territoire plébiscité par les chercheurs scientifiques internationaux. Jérémy Katidjo-Monnier est membre du gouvernement en charge de la transition écologique et coordonne ce projet.
Ce matin même, un concours à idées a été lancé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont un des sujets donc, est la Cité de la Connaissance, qui sera un lieu sur le campus de Nouville, qui permettra à la fois à l'université de disposer d'un nouvel amphi, par exemple, mais aussi d'avoir des lieux touristiques en lien avec la biodiversité, mais aussi des labos de recherche qui permettront à la fois à la recherche, mais aussi aux start-upers calédoniens, d'avoir des lieux de travail pour travailler ensemble sur des projets liés à la recherche. Ce que le gouvernement souhaite, c'est d'avoir des images, des idées pour porter auprès des différents bailleurs de fonds nationaux, internationaux, instituts de recherche, agences de développement, ce projet et trouver les fonds nécessaires pour sa réalisation ensuite.
Avis donc aux architectes, aux ingénieurs, aux scientifiques locaux, vous avez jusqu'au 20 décembre pour candidater. Et les 4 premiers lauréats recevront des prix allant de 400 000 francs à 1,5 million. Le règlement du concours est disponible sur le site marchépublic.nc. On marque une seconde et dernière page de publicité dans ce journal. Restez avec nous sur Radio Rythme Blanc. On parlera ensuite de l'actualité dans la région avec le Japon qui veut accroître ses relations commerciales avec les pays et territoires du Pacifique Sud.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal avec vous, Léo Fichou.
Et comme je le disais, l'actualité dans la région avec cette annonce du Japon qui veut accroître ses relations commerciales avec les pays et territoires du Pacifique Sud. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
17 investisseurs nippons sont actuellement à Suva dans le cadre d'un séminaire régional organisé par le secrétariat général du Forum des îles du Pacifique, séminaire dont l'objectif est de poursuivre la coopération du Japon avec les États insulaires du dit forum. Celui-ci a précisé que le séminaire en question devrait promouvoir la coopération et l'intégration régionale par le biais du commerce, des investissements, du tourisme et de la croissance des industries locales, notamment dans les secteurs de la pêche, l'agriculture et la gestion forestière. L'initiative a été saluée par l'ambassadeur du Japon aux îles Fidji. toute vision destinée à soutenir l'amélioration du bien-être social des populations insulaires doit être encouragée, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Saint-Jacques, RRB.
Le top départ à la mi-journée du tournoi territorial organisé par l'UNSS-NC. Ça se passe au stade Pentecôte de Nouméa. Au total, 21 établissements scolaires des provinces du Sud, du Nord et des Îles sont représentés, soit près de 250 collégiens et lycéens. Un tournoi qui se veut à la fois festif, constructif et surtout de découverte d'un nouveau format avec de la mixité et du multi-activité. Les détails de Pierre-Jean Roumégous, directeur de l'UNSS-NC.
On essaie de remettre en place une activité physique pour tous les élèves. On essaie en même temps d'avoir des valeurs éducatives comme la mixité, la rencontre qui est une rencontre récréative, pas seulement. Il y en a qui viennent pour la compétition, il y en a qui viennent pour apprendre et découvrir de nouvelles activités. Le but étant effectivement de s'exercer, de s'essayer sur ces activités avec un classement au final sur les 4 demi-journées qui vont se dérouler. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on change et on éduque les enfants à la mixité, à des activités qu'ils ne connaissent pas et pas seulement à du foot et du volley, des activités traditionnelles qu'ils pratiquent tous les jours.
Des activités qu'ils ne connaissent pas, Pierre-Jean Roumégous s'entend par là du basket 3 contre 3 ou encore du biathlon. Depuis la mi-journée et jusqu'à jeudi 13h, 11 équipes Benjamin, 6 équipes minimes et 4 équipes lycées défilent sur les installations du stade Pentecôte et les enfants sont ravis.
On vient du lycée des Îles qui est sur l'Ifou. Il y a plein d'activités comme du football, il y a de l'athlétisme. On voyage avec les professeurs et on a nos correspondants qui sont ici sur Nouméa.
Pour m'amuser, faire du sport comme d'autres collèges.
Moi, je suis venue pour voir les anciens copains de l'école.
On est deux marées. On est monté en bateau hier. On va faire du basket avec du biathlon, de l'athlétisme et puis du futsal.
On va faire du 50 mètres. Après, je crois que c'est 1000 mètres. Et comment sont en longueur tout ça?
Moi, je suis venue pour voir les copines de Boulari, voilà. Et aussi, je suis venue pour gagner.
Oui, voilà, gagner. Puis s'amuser aussi.
Et de nombreuses médailles seront distribuées à la fin de toutes les épreuves jeudi à 13h. Cette mauvaise nouvelle en football, il n'y aura pas de club calédonien au 7e tour de la Coupe de France. On l'a appris directement sur le site de la Fédération française de football. L'instance explique qu'en Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des compétitions étant annulées jusqu'à la fin 2024, aucun club ne participera à l'édition 2024-2025 de la Coupe de France. Gilles Tavergeux, président de la Fédération calédonienne de football, comprend cette décision, mais aurait préféré une meilleure communication de la Fédération française de football. Et puis toujours en football, pour terminer ce journal, le FC Païta toujours à fond pour le football féminin. Le club a organisé ce week-end un tournoi senior avec 3 équipes. L'entente Saint-Louis-Mondor-Nedjeou, l'entente Wetch-Melek-Païta et enfin l'ASAF. Les filles étaient contentes de se retrouver sur le terrain et de rejouer entre elles, se satisfait Nicolas Marchandeau, éducateur au club de Païta. Cette action sera de nouveau mise en place samedi prochain. Voilà pour l'actualité, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et Mister Météo, c'est vous Nicolas.
Oui, exactement, pour ce soir c'est moi. Alors cette nuit sur l'Est et dans une moindre mesure au Loyauté, des averses résiduelles se produiront encore dans un ciel nuageux en soirée, puis des éclaircies reviendront localement. A l'inverse, des nuages remonteront régulièrement sur la façade ouest en donnant quelques gouttes. Le vent s'orientera sud à sud-sud-est et soufflera entre 15 et 20 nœuds sur la moitié nord et au Loyauté et toujours 10 à 15 nœuds sur la moitié sud. Les températures minimales varieront de 12 à 16 degrés sur l'ouest et aux îles, et de 17 à 21 degrés ailleurs. Demain matin, en matinée, le soleil s'imposera largement sur une grande partie du territoire. La pointe sud et les Loyautés conserveront un peu plus de nuages, mais le temps restera généralement sec. Le vent de sud à sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds sur le nord-ouest et les Loyautés, et jusqu'à 20 nœuds avec des rafales proches de 30 nœuds sur la pointe nord. Il sera plus faible ailleurs, entre 10 et 15 nœuds, voire moins sur l'est en matinée.
Merci Nicolas, c'est donc la fin de ce journal. On se retrouvera à 19h pour un dernier rappel des principaux titres de l'actualité. L'info continue sur Radio Rythme Bleu avec à 18h30 l'interview d'Europe 1. Ce soir, Sonia Mabrouk reçoit le journaliste et écrivain France-Olivier Gisbert.